prends en haut parce que au fond vous ne devez rien voir en bas là. Dans orthographe. Non, vers l'orthographe d'État. Alors, je vous ai dit que nous allions faire un grand bond et nous voici au grand siècle avec la nouvelle Académie française. Qui a été, vous le savez, fondée par Richelieu en 1635. Et cette académie, vous le savez aussi, était chargée, elle l'est toujours, de déterminer les règles d'orthographe à suivre dans le dictionnaire. Alors, je ne résiste pas à vous lire un extrait de la profession de foi, si j'ose dire. La compagnie déclare qu'elle désire suivre l'ancien orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. Alors, je pense que plus qu'un sexisme ordinaire, c'est une pique à destination des précieuses qui, à l'époque, avaient des idées et une grande culture et un grand savoir sur la grammaire, le vocabulaire, l'étymologie, et on leur reprochait de mettre leur nez partout, évidemment. Voilà. Donc c'était une façon de les renvoyer, sinon à leur fourneau, en tout cas à leur place. Cela nous montre aussi, cette profession de foi, que contrairement aux lois phonétiques, les lois orthographiques ou les lois graphiques relèvent de décisions humaines. Alors, malgré tout, cette nouvelle académie va inaugurer des sacrifices salvateurs, des changements simplificateurs. Alors, nous allons voir quelques exemples de sacrifice de phonèmes dits étymologiques. Et je mets étymologique entre guillemets. Ce sont des critères qui sont tout simples. Je lis que toute figure marqua quelques sons, c'est-à-dire qu'on n'écrivit rien qu'on ne prononça. Pour le dire simplement, hein, un son devait correspondre à une lettre, à un phonème. Voilà. Qu'on ne prononce rien qui ne fût écrit. Et d'ailleurs, si vous êtes des adeptes de, comment dirais-je, des opéras baroques, des opéras français, vous avez dû être sensible à la diction, à l'accent. On nasalise tous les N et les M comme moi je le fais spontanément de par mes origines. On prononce toutes les lettres, hein, les flammes, les montagnes. Alors ça donne une diction extrêmement pittoresque, mais c'était ainsi qu'on lisait. Et je pense que nous ne pourrions pas, de toute façon, assister à une représentation de Racine si nous étions téléportés au XVIIe siècle sans nous écrouler de rire. Parce que l'aspect tragique des enjeux nous échapperait complètement parce que la diction nous serait insupportable. Hein, voilà. Alors, tout ceci pour dire que peu à peu, malgré tout, les phonèmes qui se prononçaient encore, hein, vont peu à peu se simplifier. Voilà. L'adjectif nu s'est longtemps prononcé avec un D. Hein, et puis, au fil du temps, hein, le D a été, ne s'est plus écrit. Ça vient de nous douce. Hein, voilà. C'est pareil. On a longtemps dit construct, comme construction. Et puis, le C a fini par tomber. Cuit s'écrivait quict, que l'on retrouve dans décoction. Et puis le C a fini par tomber. Pareil pour un témoin. Ça s'est longtemps écrit avec un G, témoin. Témoin, et puis le G est parti. Voilà. Et ça, voilà, c'est resté dans témoigner. Et pareil pour l'adjectif malin, qui donne maligne. Malin, avec un G. Voilà. Donc, une simplification d'abord timide et puis progressive, au fur et à mesure où, de décennie en décennie, on a moins prononcé les sons de la fin. Il y a eu aussi une simplification, c'est-à-dire que on a sacrifié le QU au profit du C, puisque au départ on avait cadran écrit comme cela, on avait cadre, on avait carré, voilà, on avait carreau aussi. Le QU a été remplacé avantageusement par le C. Autre simplification, on a éliminé d'anciens hiatus. Par exemple, âge, l'âge est devenu âge avec un accent circonflexe. Et en fait, pourquoi y avait-il deux A au départ? C'est parce que ça vient de aestas. Hein, voilà, donc les A sont de très, très, des vestiges très ténus de l'origine. Et puis, on a fini par le simplifier. Le rhume était au départ un rhum. Voilà, simplifié aussi. Et on a décidé d'enlever le Y lorsqu'il était à l'initiale d'un mot. Très longtemps, on a parlé de l'ivoire avec Y à l'initiale, d'un hiver. Alors, l'hiver s'écrivait sans H. Avec Y. Être ivre, ça prenait un Y. Voilà. Livrer, ça prenait aussi deux Y. Voilà. Donc, abandon de l'Y initial. Et ça, je me demande bien pourquoi. Tous les sons en qui étaient écrits EN, ou enfin une grande partie, ont été remplacés par AN. Alors dans la liste que donne Nadia Nina Katash, il y a andouille, dedans, ambassade, arrangé, qui s'écrivait avec EN, et qui se sont écrits avec AN. Alors, je pense en fait que EN venait du latin in, mais pourquoi est-ce qu'on l'a transformé en en? Peut-être parce que on le prononçait en et non pas un. Et encore, ça dépend des régions. Voilà. Voilà comment on a peu à peu procédé à des modifications. Alors, pour conclure, parce que je ne veux pas vous accabler d'exemples, dans ce mini parcours historique, vous avez compris que l'orthographe n'est pas naturelle. Hein. Mais maintenant, vous pouvez le dire, vous avez des arguments à l'appui. Et elle n'est pas immuable. Et c'est surtout le 19e siècle, qui a répandu cette idée dogmatique et très stérilisante d'une orthographe éternelle. Voilà. Et pourquoi le 19e siècle ? Eh bien, parce que les moyens de diffusion se sont modernisés et on a pu standardiser les écrits d'une façon infinie. D'où cette idée qu'il fallait que l'orthographe soit immuable et éternelle. Hein, voilà. Moi, je préfère penser que, comme une langue, une orthographe doit être vivante et évoluée. Sinon, ça n'est qu'un bel objet d'art, mais sinon sa simplicité ou sa difficulté, mais en tout cas son sens profond. Voilà, j'en ai fini avec l'orthographe. Alors, pendant que vous soufflez, je vais vous distribuer une bibliographie, et dans le temps qui reste, je vous donnerai encore quelques étymologies qui nous paraissent amusantes et qui sont très sérieuses, et non pas le contraire. Voilà, la bibliographie succincte, j'ai mis pour continuer. J'ai vu trois entrées. Introduction à l'étude, il y a les que sais-je, qui sont tout à fait accessibles et qui seront un cadre pour notre étude et un complément. Pour les ouvrages de travail et pour consultation, je vous ai mis d'abord de l'indo-européen au latin et au grec, initiation à la grammaire comparée du latin et du grec avec exercices corrigés, tableaux synthétiques et lexiques. Voilà, c'est un livre que je vous ai apporté et qu'on ne peut commander que par internet parce que l'éditeur est en Belgique. Voilà, ça n'est pas, je l'ai acheté il y a quelques années, c'était moins de 20 €. C'est de cet ouvrage-là que je me suis inspirée pour tout le travail sur l'indo-européen, les racines, les schwas, les voyelles, les diphtongues, les consonnes. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire cela. Et l'avantage, c'est qu'il y a des exercices et qu'ils sont corrigés. Mais, bon, moi je vous le montre pour vous... pour que vous sachiez d'où est venue ma culture.
C'est notre Emilia.
C'est Emilia Ndiaye, oui, qui a été professeure à l'université d'Orléans, qui l'a écrit. Voilà. Donc il faut faire travailler les gens d'ici. Alors sinon, après je vous ai indiqué les dictionnaires, et dans tout cela, paradoxalement, c'est le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey qui m'a le plus servi. Parce que il vous donne toujours l'étymologie et quand un mot lui paraît fondamental, il organise des tableaux. Vous avez des schémas avec des arbres et c'est passionnant. Voilà. C'est un ouvrage magnifique. Sinon, plus sérieux, enfin plus sérieux, la question n'est pas du sérieux, mais un dictionnaire, on ne le lit pas, on le consulte. Dans ce que vous pouvez lire, vous avez « Conversation sur la langue française », qui est vraiment un dialogue et qui fait le point, justement, sur l'histoire de la langue, sur ses avatars et sur ses singularités. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre Encrevé et Michel Brodeau ne jouent pas les anciens combattants réactionnaires qui freinent des deux pieds pour conserver un patrimoine figé. Le livre de Umberto Eco, « La recherche de la langue parfaite », rejoint l'ouvrage de Jean-Paul Demoule que je vous ai résumé. Et évidemment, il figure dans la bibliographie de « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» Il fait le même constat que Demoule, à savoir qu'une langue originelle est une construction de l'esprit. Et c'est un livre extrêmement pointu, à mon sens bien plus compliqué que le Jean-Paul Demoule. Mais Umberto Eco, qui a écrit Le nom de la rose et Le pendule de Foucault, voilà, il reste grand et respectable. Les linguicides, c'est pareil, c'est un. Je vous en ai lu des extraits, c'est un titre trompeur, puisqu'il ne s'agit pas d'un pamphlet contre ceux qui veulent tuer notre belle langue, mais d'une histoire de la langue française. Et justement, c'est un peu comme l'histoire de la biologie cellulaire. Pourquoi ça meurt? Pourquoi ça reste? Pourquoi ça se transforme? Et à ce titre-là, c'est passionnant. Je ne pouvais pas ne pas mettre un Claude Agege, qui, vous le savez, est un grand savant des langues et des langages, le souffle de la langue, voix et destin de parler d'Europe. Ça m'a autant éclairé et apporté que l'aventure des langues à l'Occident de Henriette Walter, que j'ai mis juste après. Voilà. Et évidemment, l'aventure des langues à l'Occident de Walter est beaucoup plus accessible que l'ouvrage de Claude Agege. Les langues du paradis, c'est le même thème, à la recherche de la langue adamique, de la langue première, la multiplication des langues, etc. Et puis, j'ai mis aussi un livre qui est très savant, très inattendu et très sympathique, l'étonnante histoire des noms de mammifères, toujours de Henriette Walter. Nous sommes tous en âge d'avoir des petits-enfants. Et dans ce livre, si vous voulez apprendre à votre petit-fils ou votre petite-fille à jouer avec les mots et à prendre conscience de la construction d'un mot, autour des noms du loup, de l'ours, vous pourrez leur raconter des histoires vraiment extraordinaires. Et en plus, dans ce livre, il y a de très jolis petits dessins à la plume. Voilà pourquoi je vous l'ai mis.
Donc, c'est même sur les oiseaux.
D'accord. Bon, eh bien, vous voyez, de toute façon, ma bibliographie n'est pas exhaustive, vous vous en doutez. Voilà, donc il y en a un sur les oiseaux. Ah ben, c'est très bien. Alors, pour conclure, en guise de récréation finale, nous allons voir des étymologies insolites. Et d'abord, nous allons voir comment une anecdote peut donner un mot. Je vais vous raconter l'histoire du mot gardénal. On ne dit plus le gardénal, maintenant on a du xanax, du belzonine, du. La firme pharmaceutique qui mit au point ce somnifère avait au cours des années précédentes commercialisé avec beaucoup de succès toute une gamme d'autres remèdes dont la désinence commune était Nal, Véronal, par exemple. Le directeur de la firme recommanda aux gens de marketing chargés de trouver un nom à ce nouveau produit, surtout gardez Nal. On n'en a pas besoin, le nom est tout trouvé. Voilà. Autre anecdote qui amène un mot, le mot hooligan, H2O-L-I-G-N. Tout le monde pense que ce terme, qui sert à désigner les voyous qui font régner la terreur sur les stades, est d'origine russe. Ouais. C'est sûrement parce que Beria, l'exécuteur des basses œuvres de Staline, l'utilisait à tout bout de champ pour en flétrir les ennemis de la Révolution. En fait, le mot provient d'Angleterre, là où, au XIXe siècle, un certain Holley, H-2-O-L-E-Y, Holley, faisait avec sa bande Holley's Gang régner la terreur dans la campagne irlandaise. Voilà, à partir de son nom, hein, Holley's Gang, voilà, c'est devenu hooligan, puisque vous savez que on graphie comme on entend au départ, hein, même si ça n'est plus en lien avec l'orthographe première. Alors, un dernier exemple que vous connaissez peut-être parce qu'il est assez célèbre, c'est l'origine du mot gadget. G-A-D-G-E-T. La statue de la liberté que la France offrit en 1884 à la jeune République américaine pour son 100e anniversaire est l'œuvre de Frédéric Auguste Bartholdi. Cette statue colossale a été fabriquée et assemblée dans les ateliers Gaget et Gautier, 21 rue de Chazelle à Paris, 17e. Les photos de l'époque montrent la géante de métal sortant à mi-corps des hangars et dominant le parc Monceau. Émile Gaget, G-A-G-E-T, originaire de Colmar et ami de Bartholdi, n'était pas seulement un fondeur habile, c'était aussi un commerçant avisé, un homme de marketing, dirait-on aujourd'hui, qui eut l'idée d'utiliser les mots le successif et de plus en plus grand, ayant servi à l'étude du projet, pour y couler des reproductions de Miss Liberté en modèle réduit. Les Américains se les arrachèrent. On baptisa ces petites statues des gadgets, du nom de leur fabricant qui, l'accent yankee aidant, devinrent des gadgets. Le mot finit par désigner des objets un peu inutiles, mais nouveaux et amusants. Voilà comment une anecdote peut donner un mot. Alors, pour le reste, eh bien, je vous donne, c'est la dernière cette fois, encore une photocopie pour que nous découvrions ensemble des mots pittoresques qui ont une étymologie extrêmement sérieuse. Vous verrez que beaucoup de noms ont une origine totalement inattendue. Et je crois qu'il y en a deux. Voilà, je les ai mis par ordre alphabétique. Black boule, de l'anglais black, noir et boule, rappelle les votes où l'on approuve avec une boule blanche et où l'on rejette avec une boule noire. Vous le saviez ? Et quand on le sait, ça paraît tout d'un coup tout bête et évident. Alors, Caïn, Caïn, dont on ignore totalement l'origine extrêmement sérieuse, du latin qua inc, qua ac, qui veut dire par si, par là. Évidemment, la prononciation s'est simplifiée et ça ressemble à, comment dirais-je, à une onomatopée. C'est très imagé qu'à un cas, parce qu'on voit quelqu'un qui boite, qui va un peu en zigzag. Katémini, tout à fait inattendu, du grec byzantin katamenia, les règles féminines. Charivari, du grec karebaria, mal de tête. Ça, c'est le mal de tête des lendemains de fête, sûrement. Quand vous ne supportez pas le moindre bruit. Voilà. Coccyx, du grec coccyx, coucou. Cet os faisait penser au bec du coucou. Diapason, de la locution grecque dia, passon, cordon, dia à travers, passon toute, cordon les cordes. Voilà, de l'octave, diapason. Horripilé, du latin horere, se hérisser, et pilus, poil, qui fait dresser les poils. Alors j'aime beaucoup l'adus. Argot scolaire. Le premier sujet de composition française donné à l'école polytechnique portait sur le discours de Laïus, père de vie. Alors ça, c'est inattendu au possible. Malotru, du latin populaire maleastrocus, mais sous une mauvaise étoile. Ça fait beaucoup, beaucoup moins insultant quand on sait les étymologies. Presbyte, du grec presbytes, vieillard, et oui, on commence à reculer les documents après 40 ans. Colibé, du latin scolastique disputationes de quo libet, disputationes débat, de à propos de, quo libet, n'importe quoi, de ce que l'on veut. Et ça donnait un colibé, puisque le colibé, c'est une création spontanée. Mais enfin, j'avoue que là, j'ai du mal à faire tout le chemin. Je ne sais pas. Scrupule, j'aime beaucoup celui-là, du latin. Scrupulus petit caillou, d'où figurer inquiétude de conscience, le grain de sable qui vous empêche de vous endormir. C'est très imagé. Oui, c'est très beau. Un slogan, c'est un cri de guerre écossais. Voilà. Et velcro, contraction de deux mots, vel de velours et cro de crochet. Vrac, du néerlandais vrac, mal salé, mauvais, en parlant des harengs non rangés dans la cage. Et zizanie, du grec ziziana, zizania, livret, au sens figuré, d'après la parabole de livret. J'ai une référence, hein, Matthieu 13, 25. Voilà quelques amusements. Alors, j'en ai fini. Sauf si vous avez encore, on a le temps, mais on aura fini avant, je n'ai pas résisté à vous apporter, là c'est totalement facétieux, et ne vous référez pas sur ma dernière lecture, monsieur, pour vous faire une idée du cours de l'année prochaine. Ça, vous le gardez pour vous. Voilà, je vous avais parlé de ce livre « Au bonheur des mots » de Claude Gagnaire, dont l'un de vous m'a dit que ça avait paru en collection bouquins. C'est un livre très intéressant. Et il y a un chapitre consacré au surnom dans la marine. Alors, je donne l'introduction qui justifie ce qui va suivre. Chaque bâtiment de notre flotte de guerre est une société en miniature. Un microcosme, dirait l'homme de barre, sur laquelle règne un commandant omnipotent, la cohabitation prolongée et obligée des gens de mer dans un espace restreint pourrait se révéler étouffante si la stricte obéissance et les signes extérieurs de respect n'étaient contrebalancés par l'ironie souterraine et permanente qui s'exerce dans les carrés. On se défoule en colportant des mots, en passant les moindres tics au miroir déformant, en caricaturant. Mais il faut avant tout affubler les officiers d'un surnom. Comme la marine est considérée dans certaines familles comme la carrière aristocratique par excellence, on y trouve beaucoup de noms à tiroir qui constituent une cible idéale pour la verve iconoclaste des jeunes officiers. Voilà, pour faire simple, pour se détendre dans cet univers confiné, on affuble les amiraux et les officiers de petits noms à partir de leur patronyme. Alors, il y a successivement les noms à rallonge, les surnoms coquins, je passe parce que là, mon aura va fondre. Et vous allez reprendre mon Chalimard. Donc, vous irez voir, c'est à la page 433. Il y a les surnoms simples et les surnoms tirés par les cheveux et les surnoms à contre-pé qui sont tout à fait visibles. Alors, d'abord, les noms à rallonge. L'amiral de la forêt d'Yvonne devient l'amiral du bois d'Henriette. L'amiral de 100 sacs de traversée devient le voyageur sans bagage. L'amiral roumain de la touche devient le bulgare de la mêlée. L'amiral Mola du Jourdain devient crachat du Nil. L'amiral de l'Esquin du Plessis-Casso devient claquesin du Pernod-Cassis. L'amiral de Gaillardon de Fénoal devient Fémergan du Gasoil. L'amiral Turquet de Beauregard, alors Turquet en anglais, Dindon. Turquet de Beauregard devient Dindonneau du Bel-Oeil. Alors, les surnoms simples. Amiral Adam, le premier venu. L'amiral Domalin, vu de face. L'amiral Citivo, Saint-Gros-Bœuf. Citivo, Saint-Gros-Bœuf. Alors, les surnoms tirés par les cheveux. Amiral Chomeil dit le Tché, parce que la mousse Tché-Tché chadonne Chomeil. Les surnoms à contre-pé. Alors, amiral Savin d'Orfon, Savon d'Orfin. L'amiral Hieronymus, Zérominus. L'amiral Dagrin, Chamour, parce que chagrin d'amour. Et l'amiral Roquebert devient Camenfort. Voilà, pour vous amuser encore une fois avec les mots. Je n'ai plus rien à vous dire. Et je vous laisse la parole si vous voulez combler les 20 minutes qui restent. Sinon, vous rendre votre liberté et je ne vous remercie, mais je vous exprime le plus simplement possible ma très vive émotion pour toutes ces marques que vous m'avez données, que je n'oublie pas, que je n'oublierai pas. Merci à tous. Merci. Merci à vous pour votre patience. Merci de votre patience.
C'est un moment de question. J'ai fini le livre que tu me conseillais sur la psychanalyse des contes de fées. Je suis gênée par un verbe qui est utilisé. Tu veux bien prendre le stylo? Voilà. Donc ça s'écrit dans ce livre et à plusieurs reprises, hein, donc c'est pas une faute d'imprimerie. E-2-S-A-I-E-R. Voilà, et c'est le verbe essayer. Ah, je suis coite. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Essayez, et c'est écrit à plusieurs pages ainsi.
Eh bien, je ne sais pas.
Où ça c'est écrit?
Essayez. C'est le sens essayer.
Non, mais il est traduit. Non, mais il n'est pas traduit par Bethlehem lui-même.
Oui, c'est un choix du traducteur. Ah,
c'est traduit par Google.
Je ne sais pas parce que. Moi, je t'ai dit que je l'avais racheté parce que le mien était perdu. Et je suis sûre de ne pas avoir trouvé cette. Je ne sais pas.
Alors, au même titre que dans ce livre, je me souviens, gamine, quand maman nous lisait les contes, de la fameuse pantoufle dans Cendrillon, où justement ce mot-là, nous ne le connaissions pas, V-A-I-R. Voilà. Et là, c'est écrit V-E-2-R-E.
Alors, oui. Mais ça, moi, ça, je le conçois, parce que le verre, en effet, quand on nous l'explique, on sait que c'est une fourrure, mais on est dans un conte. Et une pantoufle de verre VE2RE, après tout, c'est la fée qui a transformé la citrouille en carrosse.
C'est pas ça la vraie.
Mais je ben allez-y.
Encore pas très longtemps.
Ah, allez-y. Alors,
parce que moi j'avais fait une triviale poursuite, verre VE2RE, et on me disait c'est vert, c'est le.
La fourrure, tu veux la lire.
Le petit gris, voilà. Or, il paraît que c'était la pantoufle de verre. Réellement VE2RE, puisque c'était un conte, comme vous dites,
voilà.
Et ça serait Balzac qui aurait changé en vers VAIR dans un de ses livres.
Okay.
Il reparle de ça et il aurait écrit VAIR. Ah, oui. Donc à partir de là, ça repartit en disant que c'était le petit gris.
D'accord.
Or, ça serait pas vrai, ça serait, c'est lui qui aurait changé, mais dans le conte, c'était effectivement une pantoufle en vers. Parce qu'on imagine mal une pantoufle en. La chaussure qu'il faut essayer à toutes les filles dans de la fourrure qui peut s'étirer pour les sœurs.
Exactement. C'est vrai. Voilà. Voilà,
c'est vrai. Donc c'était bien vert alors qu'on nous a fait croire, enfin, voilà, c'est ce que j'ai entendu l'autre fois, et que pendant très longtemps, à cause de Balzac, on avait transformé en vert.
C'est ma version. Au jardin d'Apremont, où ils ont fait des costumes. Là, il y a une exposition sur les costumes des contes de Perrault.
Ouais.
On a été surpris, mon épouse et moi, avant-hier.
Un peu plus fort.
Au jardin d'Apremont, où ils ont consacré une exposition aux contes de Perrault, faite par une femme américaine qui a habillé les héroïnes. Les pantoufles de verre, ça nous a surpris, étaient à nouveau en verre VE2RE. Ah, et nous-mêmes, on a été surpris, en fait, c'était sans doute un retour à quelque chose.
Voilà. Le dernier Cendrillon, la pantoufle est bien en verre de bouteille.
Oui.
Mais là, dans le livre, ça m'a étonné quand même. Bon, mais je comprends, mais essayez.
Et dans le Cendrillon de Walt Disney, on va être obligé de le re-regarder.
Le Y de Ivoire, etc.
Parce que dans la côte de Perrault, ça finit là. Monsieur Bouffet,
Saint-Yves
a refait les versions roses.
Le XVIe siècle, ça s'écrit avec un I. C'est l'inverse.
Quel mot ?
Yves, le prénom. Saint-Yves, avant le XVIe siècle, ça s'écrit avec un I. I-V-E.
Oui, il est originaire de l'eau.
Charles. Enfin, originaire, non.
Parce que
il était évêque de Chartres.
En Angleterre, c'est
Yves. Ah oui, alors peut-être que c'est.
En italien, c'est Ivo. I-V-E.
Oui, dans les langues slaves aussi.
Sur le lac Léman, il y a Ivoire, la ville avec un village.
C'est vrai, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Je pensais à vos amis, l'école Médage, où le hiatus n'a pas été fait parce que c'est un patronyme, sûrement.
C'est D-A-A-G-E.
Ah oui. Ah, c'est pas, ça se tient pas.
J'ai dit apostrophe, j'ai des bêtises. D-A, accent circonflexe, A-G-E.
Ah oui, il y a quand même un accent circonflexe.
Il reste, c'est pour ça, c'est contraire à ce que tu dis. Bon, enfin, c'est un nom propre.
Oui.
Qui serait d'origine viking.
Encore.
Et de là, je démarre avec deux A, mais il y en a un qui a un accent circonflexe. Ouais.
Là, il y a une contraction qui s'est faite. Bon, en tout cas, pour essayer, je ne sais pas. Je sais que dans les verbes. Aillez, ouillez.
Ancien français. Ah, oui, essayez, goûter avec le préfixe ES. Et leur référence, c'est Frédéric Beaufort, dictionnaire de l'enseignement français et de toutes les dialectes.
Ça n'a pas lieu. C'est pas dans des citations de contes.
Ah, du tout, du tout.
C'est dans, le texte.
Dans la.
Voilà.
Dans l'interprétation dans l'analyse, du conte, etc. Oui. Et à plusieurs reprises, j'ai relevé le numéro des pages, comme c'est ton livre. J'ai pas fait de corne.
J'ai vu, parce que moi, dès que
ça m'a tenté.
On voit que, maintenant des
est-ce fois. Que dans le mot anglais, il aurait pris un mot anglais à mes yeux. Dans la
pourtant, dans la conjugaison, là, on peut écrire des deux façons.
Oui,
c'est vrai, j'essaie. Oui. On peut l'écrire soit avec un i, soit avec un i.
C'est vrai. C'est vrai, mais pas l'infinitif.
Mais pas l'infinitif, d'accord. Mais alors,
c'est vrai. Tout, comme tous les verbes en aillé, la paix, oui. La paix. Oui. Voilà.
Ah, je parle les deux dans la conjugaison.
C'est pareil, tout à l'heure, vous cherchiez un nom avec un jambage en plus. Oui, tout de suite, il m'est venu compte. Les comtes, le comte noble, le comte
comtesse, donc,
et le comte
tous les comtes, le comte comte, etc. Donc il y a un comte comme Cendrillon, donc soit avec un N, soit MT, soit MPT, mais quand on le lit dans un livre du 16e, c'est CO, un petit trait au-dessus, TE.
Ah oui,
oui. Quoi
oui.
Quand on lit dans un livre du 16e, c'est C-O, un petit trait sur le haut, T-E. Ah,
oui. C'est ça, voilà.
Quel que soit le compte.
Ah, vous avez raison.
Donc, après, ça doit être après qu'on a fait toutes les distinctions.
Alors, quel après, je ne sais pas, mais je pense que ça, on ne peut même pas dater ce genre d'évolution, parce que il y a dû avoir, par exemple, je ne sais pas, 472 pour tel type de mot, et puis 10 ans après, ou 20 ans après, ou 20 siècles après, tel autre. C'est, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est irrationnel, parce que c'est notre outil permanent, que ce soit à l'écrit, à l'oral. Voilà, donc sa vie, sa chance, ça se modifie. C'est indatable. On ne peut faire que des grandes enjambées.
Il y a eu une grande modification à la façon d'écrire d'une façon manuscrite entre le 16e et le 17e. Hein. Autant c'est facile de lire les documents du 17e, dès qu'on tombe dans le 16e, ça vient dire, et le 15e, c'est très très ardu, même quand c'est écrit en français. Hein. C'est très très difficile.
Et puis la ponctuation
les lettres ne se fait pas de la même façon. Celle qui est la plus caractéristique, les gens font des erreurs, c'est le R. Ouais. C'est un V avec une barre.
Ah oui, d'accord. Ouais. Si on ne connaît pas le code...
Si vous ne connaissez pas le code, alors quand c'est un nom ou un prénom, si c'est Richard, c'est un R. Et quand vous tombez sur un nom de famille, quelqu'un qui ne connaît pas l'alphabet, il prend ce V, hein, donc il peut, au lieu de dire, rare ou un nom comme ça, il dit var. Il y a beaucoup de lettres qui se modifient comme ça. La façon de faire les E, les A, les N sont tout à fait différents. Autant le 17e, ça se lit, parce que c'est bien écrit,
oui.
Ça se lit facilement. Alors dès que vous tombez dans le 16e ou le 15e, c'est absolument. Il y a une rupture entre les deux alphabets.
Merci, monsieur.
Mmh.
Intéressant. Voilà. D'autres témoignages encore
c'est et quand vous prenez les documents de l'auteur, ce que vous disiez tout à l'heure, beaucoup d'appellations.
Complications pour une lecture
non, pour profane. Eux, c'était...
Oui, mais pour les profanes...
C'est pour eux, quand quelqu'un qui écrivait, hein, donc il fallait qu'il fasse des simplifications pour écrire plus rapidement.
Alors, chez les notaires, on s'en sort un peu pour le peu que j'ai étudié, parce que comme il y a répétition dans les actes, les abréviations sont toujours les mêmes, la formulation est toujours la même, donc même si on n'arrive pas à lire très bien, comme la première fois on a ramené quand même malheureux, la deuxième fois on arrive mieux à s'en sortir.
Il y a des difficultés. Oui.
Moi ce que je
veux
vous poser comme question, c'est le en. Devant la règle d'orthographe, devant MBP, on met EM et non pas EM. Ça vient d'où ça?
Mm-hmm. Pardon.
Cette règle-là.
Alors, ça c'est purement phonétique.
Prenons un exemple.
Voilà, on dira infaisable, ça ne va pas bouger. Mais impossible, donc ça va devenir M. Mm-hmm. Parce que les deux nasales, N et M, n'ont pas le même point d'articulation.
N est dental, M est labial. Comme le P peut. Donc, on garde la nasalisation, mais on la transforme en M. Comme ça, on a le même point d'articulation labiale. C'est ça, la règle. Tout bêtement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une espèce de logique d'écriture, mais qui correspond à la logique de la prononciation. Mais c'est vrai que... Est-ce que ça suffit à compliquer les choses ?
C'est-à-dire qu'initialement, ça ne s'appelait pas pareil, justement, on prononçait toutes les lettres.
Je pense qu'on nasalisait quand même M, mais on dit M, comme moi je parle, impossible, impossible. Voilà. Et immédiat, c'est pareil, c'est, on met le M devant le M à la place du N. Parce que, voilà, on labialise immédiatement.
Vous croyez vraiment que toutes les lettres se prononçaient au 17e, par exemple, cette tête, c'était ceste, test.
Oui.
C'est vraiment difficile à prononcer.
Oui, oui. Bah, écoutez, toutes les recherches qui ont été faites montrent cela. Et je vous dis, si vous écoutez chanter de la musique baroque et des textes du 17e, c'est très surprenant. Ils nasalisent tout et ils prononcent toutes les lettres. Oui, oui. Et alors, ça s'est amenuisé au fil du temps. Je n'en saurais pas plus. Mais... Oui, oui. Alors, comment, je dis, des recherches ont été faites, je serais bien incapable de vous donner plus de précisions là-dessus.
J'en viens que les Québécois, ouais,
ce que j'allais dire.
Et voilà.
Sont beaucoup plus près du parler du 17e.
Bien sûr. Que les puisqu'ils se sont coupés de l'évolution qui a eu lieu chez nous. C'est évident, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr.
Il y a des gens qui disent que Louis XIV parlait comme un Québécois.
Ouais. Il paraît que lorsqu'il y a des pièces classiques qui sont dites avec l'accent ancien, les Québécois ne réagissent pas comme les Français. Dans leur tête, ils n'ont pas les mêmes perceptions de forme d'écriture. Parce qu'ils prononcent à l'ancienne.
Ouais, cette séparation.
Ça, c'était jusqu'il n'y a pas longtemps, parce que ma grand-mère elle disait le quai du Rouet. Elle ne disait pas le quai du Roi.
Ça se dit beaucoup dans le coin du Loiret.
Majoritairement, c'était parti ici. Avant la Révolution, je crois que ça a été cette rupture de ça. Il restait des choses, mais je veux dire. Pour les Québécois, c'est juste avant la Révolution, pendant 50 ans de contact avec la France. Et donc, ils gardent l'accent pendant qu'on modernise ici. Mais il restait des mots, bien sûr, avec l'ancienne prononciation.
Et Colette ?
Colette avait son accent bourguignon, notoire. Oui, c'est sûr. C'est sûr.
J'ai une question.
Oui.
Le français et l'italien ont les mêmes racines, bien sûr, c'est une évidence, mais il y a plein de mots qui sont écrits en phonétique en italien, pour nous. Et est-ce que ça a été... Je pensais que c'était une réforme orthographique, et puis à t'entendre, je me dis, ils sont peut-être restés sans rajouter des PH partout.
Eh bien oui, je crois qu'ils n'ont rien rajouté.
Ils n'ont rien rajouté, c'est ça.
Ils sont restés plus proches de la matrice latine. Mais en même temps, enfin, dit comme ça, ça paraît simple et sommaire. Il y a quand même eu des évolutions phonétiques incontournables.
Comment on écrit philosophie ?
Comment ?
Comment on écrit philosophie en italien ?
Avec F. Hein.
Oui, alors là, c'est l'origine.
Mais en fait, le latin n'avait pas ce phonème-là au départ. Il n'avait pas le phi grec. Hein. Ils ont désaspiré tous les sons, les latins. Donc, ils ont voulu... Et ça, c'est à l'époque de Cicéron. Cicéron est un des premiers à avoir donné à la langue latine un vocabulaire philosophique. Parce que les latins, ils n'étaient pas faits pour ça. Ils étaient faits pour construire, faire la guerre, faire des empires. Donc, ils ont gardé le PH, mais c'était purement formel. Voilà, purement formel. Hein. Bon, et alors, pour répondre à cette histoire d'orthographe, d'écriture du français... La différence entre le 16e et le 17e, il faut bien que je vous avoue que pour ce qui est de l'alphabet grec,
que je vous ai appris. Je vous ai donné des textes en grec, mais j'ai eu sous les yeux des parchemins écrits en grec ancien que j'étais totalement incapable de déchiffrer, totalement, parce que il ne laissait pas d'espace, très peu entre les mots, il ne ponctuait pas à part le point ou le point en haut de temps en temps, et ça vous donne un bloc. Vous avez l'impression de voir une écriture, de voir des runes ou de quelque chose. Et vraiment, hommage et respect à ceux qui ont décrypté ces signes grecs. Voilà. Écoutez, vous m'avez prouvé que vous ne m'en vouliez pas de vous avoir assommé avec cet alphabet grec.
Je vous souhaite à l'année prochaine.